D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzi.
No, quest'anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia. No, l'altro anno visto come ando, con te sulla spiaggia non ci sto.
C'est juillet, c'est l'été. Nous pourrions inventer une catégorie de films qui n'existent pas encore et pourraient correspondre à cette période, les films de plage. Après tout, il y avait bien eu les films de ski en Allemagne dans les années 20, où la mirobolante réalisatrice nazie Leni Riefenstahl avait débuté sa carrière comme actrice. Ah ça, dans la liste des choses impossibles, on pourrait sans doute inclure les films de plage nazis. Films de plage, ça sous-entend, disons, souplesse et tendresse. Au premier abord, je me disais qu'il existe deux types de films de plage et tous les deux fixés par un James Bond. Le premier, c'est le type James Bond contre Dr. No. Film de 1962 avec Sean Connery, mais surtout avec Ursula Andress. Sean Connery dort sur une plage. On entend marmonner une chanson tahitienne, plan sur la mer. En sortant à la façon de la Vénus de Botticelli, mais en bikini, Ursula Andress. Elle vient de pêcher des coquillages, elle porte une grosse ceinture où est attaché un gros couteau. Cela donne à son côté sexy quelque chose de menaçant qui est très de ces années-là. Dans un des dialogues ironiquement nuls de ses films, Sean Connery lui dit « Je peux vous assurer que mes intentions sont strictement honorables ». Et dans une des dénominations vulgairement ironiques de ses films, la pêcheuse suggère qu'elle est peut-être une pêcheresse en donnant son nom « Honey Rider, cavalière sur miel ». On devine de quel miel il s'agit. Et puis, il y a le deuxième type de film de plage, et toujours dans un James Bond. C'est le type Casino Royale, film de 2006, plan sur la mer. Et après ça, tout change, tout est même inversé. Une fille passe à cheval sur la plage, nouveau plan sur la mer. Une tête sort de l'eau, celle de Daniel Craig en petit maillot bleu, comme Ursula Andress était en bikini. Il regarde la fille à cheval qui s'éloigne. Il la regarde, elle s'éloigne. La caméra caresse son corps à lui. Ah là là, si même les goûts de James Bond sont avertis, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez vont encore faire des déclarations intelligentes. Film de plage, ça, c'était la version hypersexuée. Je crois qu'il en existe d'autres et peut-être plus étonnantes. Quel est donc le secret professionnel des films de plage? Je reçois pour m'en parler Éric Neuhoff, romancier et, on le sait peut-être moins, qui a travaillé pour le cinéma, en collaborant par exemple avec Raoul Ruiz. Éric Neuhoff, qu'est-ce que vous avez fait avec Raoul Ruiz?
C'est une histoire compliquée. Le film, c'est Les âmes fortes d'après Giono, qui devait au départ être réalisé par Alexandre Astruc. Et pour des raisons compliquées, le projet a atterri dans les mains de Raoul Ruiz. Donc Raoul Ruiz a récupéré le scénario, a travaillé dessus et a tourné sa version qui n'était pas si différente de celle qu'on avait faite.
Et vous avez écrit les dialogues? Vous avez collaboré au
Moi,
scénario?
Moi, j'ai collaboré au scénario et au dialogue à l'époque.
Et le film était
Pas si mal, avec Malkovich et Laetitia Casta.
Et ça, c'est assez récent, donc?
Ça a une dizaine d'années, oui. C'était même allé à Cannes.
Et sans prix?
Sans prix et sans plage.
Alors donc, pour en revenir à la plage, c'est donc très, très principalement les films de plage, des films sexués. Il y a aussi, outre ce que je citais, la plage de Danny Boyle.
Oui, qui n'est pas un chef-d'œuvre. Et puis, sont des films de plage, mais ce sont des films à voir dans des drive-in, on imagine. Regardez ça d'un œil distrait. Et comme vous êtes très chic, effectivement, vous avez choisi de parler de James Bond et de Daniel Craig, mais qui est sans préciser qu'il est aussi ridicule en sortant de l'eau que Jean-Claude Duss avec son paquet d'algues pour masquer son intimité dans Les Bronzés.
C'est Patrice Lecomte.
Oui, Patrice Lecomte. Et dans le James Bond Dr. No, la chose qui frappe en revoyant la séquence, c'est que Ursula Andress passe son temps à rentrer le ventre. Et ça, beaucoup de filles faisaient ça à l'époque, quand on les voyait en maillot de bain. Et dans la plage, on voit un tout jeune DiCaprio, tout poupin, qui a l'air de manger de la blédine et qui va se baigner la nuit avec l'improbable Virginie Ledoyen, qui lui dit « Allons nous baigner parce que le Varec ou je ne sais quoi là, brille la nuit dans cette île où ils se sont tous réfugiés. » Alors ça donne des glou-glou sous l'eau où ils s'embrassent, ils s'enlacent. La scène est ridicule, mais peut devenir culte si on regarde ça avec des copains. De toute façon, c'est un film de Danny Boyle, donc ça ne peut pas être très bon.
Oui, et d'ailleurs, il se baigne tout habillé, je crois.
On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi, à part les besoins de la censure. Et puis oui, on voit du planton qui brille. Alors, sur les plages, Éric Neuhoff, quand on peut mélanger la sexualité et la guerre, il y a une une scène très fameuse, je crois, dans Tant qu'il y aura des hommes, non ?
Oui, une scène qui avait fait scandale. Ou...
Qu'un film de qui ?
De Fred Zinnemann, tiré d'un roman de James Jones, où jouait Sinatra, qui avait eu l'Oscar pour son rôle. Et la scène qui a fait scandale, c'est le macho superlatif Burt Lancaster, qui roule une pelle, pour le dire, dans le sable, avec la vague qui les submerge, à Deborah Kerr. Et il faut savoir que dans le film, ce sont deux soldats. Elle aussi appartient à l'armée. Et ce qui était marrant, c'est que Deborah Kerr était en général spécialisée dans les rôles de bonne sœur. Et là, dans ce baiser torride, tout le monde avait été très très surpris parce que le film avait été un succès énorme. Et Zinnemann était un honnête artisan hollywoodien, pas du tout un provocateur. Et c'est une scène qui a marqué. Je me demande comment ça n'a pas été censuré à l'époque d'ailleurs.
Mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça pour attirer le public, pour faire parler de lui, pour...
Parce que je pense que ça l'amusait. Et puis ça devait être dans le roman que je n'ai pas lu. Hein. Et j'imagine que c'était pour raconter quelque chose de fort et montrer que même dans l'armée, il y a un petit cœur qui bat dans la poitrine et puis un autre organe qui bat dans le maillot de bain.
Alors, il y a la sexualité et la moquerie de la sexualité, parce que les films de plage sont plus intelligents parfois que... Certains sont plus intelligents que d'autres. Et je pense à la façon dont Moretti peut s'en moquer, par exemple.
Oui, dans Bianca, Moretti est sur une plage où tout un tas de couples sont en train de se bécoter, de se frotter les uns contre les autres. Et lui est tout seul. Et il repère une demoiselle solitaire aussi, qui est allongée sur le ventre, et lui s'allonge sur le dos de la fille, qui évidemment se retourne et l'enguirlande, et tous les machos de la plage lui tombent dessus, et la scène est assez rigolote. En plus, on sait que Moretti était un champion de natation, c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup d'eau dans ses films de piscine, et on voit qu'il a un physique de crawler là-dedans.
Ah, c'est pour ça qu'il a été casté dans le film il y a quelques années, qui commence par une noyade au bord de la plage, d'après un roman italien.
De Veronese.
De Veronese, oui, c'est ça.
Oui, c'est un champion de natation. Et c'est pour ça que Palombella Rossa se passait pratiquement entièrement dans une piscine.
Palombella Rossa, c'était le film avec des joueurs de polo, c'est ça ?
C'est ça, oui, de water polo.
De water polo, oui, oui. C'est mieux. Mais d'ailleurs, il faut dire que dans la scène de Bianca, qui est, je crois, un film de 1984 dont vous parliez, l'élément comique, c'est que lui est habillé et qu'il s'allonge sur une fille.
Alors, il est en maillot.
Il est en maillot. Il
a un petit maillot de bain bleu, pas terrible d'ailleurs, mais un maillot de compétition, comme on disait à l'époque.
Est-ce que vous diriez que la qualité et le défaut, parce qu'il n'y en a pas besoin de deux, de Moretti, c'est d'être un Woody Allen italien ? Et un peu trop Woody Allen ?
Et un peu trop Moretti, il est trop influencé par lui-même maintenant. Au début, il avait beaucoup d'humour et il a fini par se prendre un peu trop au sérieux, ce que ne fait toujours pas Woody Allen, heureusement.
Il a eu une phase, Woody Allen, de...
Oui, une phase amusante, un peu psychanalytique et autocritique.
Non, mais le film peut inspirer de Tchekhov, qui était... Trois femmes ou quelque chose comme ça. Il a eu une période de films dépressifs, Woody Allen.
Ah, Woody Allen, oui. Woody Allen. Anna et ses sœurs, September, voilà, toutes ces choses-là. Oui. Il est jamais très gay, hein, même quand il est dépressif. En plus, il s'amuse.
Mais d'ailleurs, vous l'avez rencontré sans doute plusieurs fois.
Oui, plusieurs fois.
Et alors ?
Il est comme à l'écran. C'est un type brillant, désenchanté et qui a pas mal de réparties. Mais vous savez, quand on voit ces acteurs, c'est comme chez le dentiste. On est 12 journalistes à la queue leu-leu. On comprend qu'il s'en est un peu assez au bout d'un moment.
Et Moretti, vous l'avez...
Non, jamais, parce que Moretti, paraît-il, est très très désagréable.
Ah bon ?
Il a même giflé, ce qui montre d'ailleurs dans un de ses films, une journaliste.
On ne le fait jamais assez.
Bah oui.
Eric Neuf, les films de plage peuvent donc être comiques. Et j'aimerais que vous me racontiez, car je crois que vous l'aimez bien, un sketch fameux des Nouveaux Monstres, ce qui était ce film à sketch de Risi, Monicelli, Escola.
Oui, c'était la suite des Monstres, qui était déjà un film à sketch, où c'est un couple qui est convoqué par un producteur dont on devine assez vite qu'il finance des films porno et qui demande à la femme de se déshabiller, ce que le mari accepte avec la lâcheté de tous les époux. Et ensuite, on découvre qu'il va falloir qu'elle couche avec un singe. Et le mari dit « un singe, pourquoi pas ?» Et le producteur dit « C'est un tout petit singe. » Et en fond, il y a une photo de plage. Et le producteur dit « Mais ça se passera sur une plage, ce qui rend tout poétique. »
Et après, je crois qu'ils vont chercher... Le sketch finit pas exactement.
Oui,
là.
Ça se termine. Ils vont chercher quelqu'un. Il y a une petite fille en train de... manger une sucette, on comprend qu'elle aussi va tourner dans le film. Non, mais ce sont des films très, très cruels, hein, comme ne savent plus les faire les Italiens. La cruauté de ces sketchs, on l'a retrouvée il y a 2 ans dans le film argentin qui s'appelait Les Nouveaux Sauvages.
Oui, qui était une coproduction du frère d'Almodovar, je crois.
Oui, d'ailleurs. C'est ça, oui. C'est peut-être pour ça qu'il est, comme c'était en Amérique du Sud, il s'est arrêté à Panama pour placer son argent.
Mais c'était très bien ce film.
Excellent,
ce film. Ouais. Et d'où, comment vous expliquez que la cruauté ou même l'esprit, tout simplement, des films italiens est totalement disparu?
Bah, c'est d'ailleurs, le cinéma italien lui-même a presque totalement disparu, donc. Pour être cruel, faut être sûr de soi, tourner beaucoup de films que un tas de gens aient envie de faire du cinéma. En plus, c'était des films à sketch dirigés par plusieurs metteurs en scène et écrits par tout un tas de scénaristes qui tous se connaissaient, qui s'entendaient et qui se partageaient le boulot, et ça donnait des résultats très très amusants. Ça sentait le plaisir, et c'est ce qui manque maintenant dans le cinéma, pas seulement italien. Ça sent beaucoup l'effort et l'inutilité, mais rarement le plaisir.
Est-ce que Claude Lelouch a déjà participé à des films à sketch?
Oui, hélas pour lui, dans un film épouvantable qui s'appelait Loin du Vietnam, où je crois qu'il y avait un sketch, on pense toujours que c'est drôle, mais là c'était des courts-métrages pour protester contre la guerre du Vietnam avec Godard, Chris Marker, des gens comme ça, et Lelouch, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais Lelouch est un cinéaste qui sait faire des scènes de comédie.
Bah, il a fait une scène de comédie de plage assez fameuse.
Oui, très culte dans L'Aventure, c'est l'aventure, où les 4 ou 5 escrocs qu'il met en scène pour draguer les filles qui sont allongées au bord de l'eau, on invente une démarche avec leur chapeau de paille et leur chemise hawaïenne. Alors c'est Aldo Maccione qui sait le faire le mieux. Il se dandine comme un Italien sur la Via Veneto, mais pas dans la même tenue. Charles Gérard, lui, n'y arrive pas du tout. Jacques Brel, lui, a une démarche de cigogne absolument ridicule. Et c'est évidemment, à la fin, c'est Lino Ventura qui prend la chose en main et qui leur montre à tous comment on fait. Ce qui est assez ironique, puisque au départ, Ventura avait refusé de jouer la scène en disant que c'était grotesque. Et comme il n'est pas idiot, il s'est vite aperçu que ça deviendrait la scène que tout le monde retiendrait dans le film. Il a dit « si, si, j'y vais
ouais. ». Il y avait Charles Denner aussi,
je crois. Il y avait Charles Denner, oui, aussi.
Et il y a une autre façon de se moquer des films de plage, c'est une façon, alors vous me direz si, moi je pense que c'est une scène bouffonne intentionnelle, mais peut-être que vous qui ne l'aimez pas beaucoup le direz le contraire. Je pense à une certaine scène de Pierrot le Fou avec Anna Karina.
Ah mais non, moi j'aime beaucoup Pierrot le Fou, c'est pas mon Godard préféré, mais c'est normal que dans La Nouvelle Vague il y ait des scènes de plage, hein, avec et Anna Karina était tout à fait charmante, c'est la fameuse scène où elle marche dans l'eau sous l'œil de Belmondo en disant qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire, et c'est tourné sur une plage de Porquerolles qui n'était pas encore à la mode et à l'époque, et où Godard a tourné ça comme il faisait à l'époque en très très vite, il avait dû écrire les dialogues 2 minutes avant, et on voit dans ce film encore l'énergie qu'il avait et qu'il a perdu ensuite. C'était quelqu'un qui était capable d'arriver sur un plateau et dans l'urgence d'inventer tout ce qu'il allait tourner et écrire.
Et il y a un moment assez amusant dans cette scène, c'est Belmondo qui est supposé écrire, il répond à Anna Karina, silence, j'écris, et il écrit, vous et moi qui écrivons, c'est des situations qu'on rencontre assez peu, il est donc au bout de la jetée avec un perroquet sur le genou.
Oui, un perroquet, et quand on voit ce qu'il écrit, comme d'habitude, c'est l'écriture de Godard qu'on repère à l'écran, une assez belle écriture d'ailleurs.
Quel est votre Godard préféré puisque vous...
Le Mépris.
Le Mépris ?
C'est même mon film préféré tout court.
Ah non.
Si.
C'est à cause des poils de Michel Piccoli dans son dos ?
Non, c'est plus à cause de Brigitte Bardot sans poils.
Bon, Eric Neuhoff, la plage, ça peut être la guerre. On l'a vu avec Tant qu'il y aura des hommes. Mais il y a aussi de très belles scènes de débarquement au cinéma.
Oui, bah, la plage, c'est aussi la Normandie. Et pour les soldats, ça veut dire juin 44. Pardon. Et il y a 2 scènes parallèles dans... Le jour le plus long et beaucoup plus violente des années plus tard, il faut tuer le soldat Ryan.
Sauver
le soldat Ryan, pardon. Où là, on voit vraiment ce que ça avait dû être pour ces types-là qui avaient 18-20 ans, qui n'avaient jamais bougé de leur village du Texas et qui se retrouvaient sur ces barges mitraillées par les Allemands. Et on voit un déluge de ferraille, de sang, Les types se noyaient parce qu'ils avaient des équipements très très lourds, c'est effrayant. Et à l'époque, les vétérans qui étaient allés voir ça étaient obligés de sortir de la salle tellement ça leur rappelait de mauvais souvenirs et tellement les scènes sont réalistes là-dedans. Alors la plage, c'est pas seulement l'ambre solaire et le volleyball hein, pour certains.
On voit quels sont les réalisateurs, ouais. Parce que je crois qu'on voit bien la différence de talent d'une scène à l'autre quand même.
Bah, le réalisateur du jour le plus long, en réalité, c'était le producteur Zanuck. Oui. Et c'est Spielberg qui a fait le soldat Ryan, et on voit que l'époque avait changé et aussi que la technique avait beaucoup évolué, parce que Spielberg est quand même un réalisateur très angélique, et là il a prouvé qu'il pouvait être quelqu'un de tout à fait concret.
Alors là, pour finir la première partie de l'émission, Eric Neuhoff, je voudrais que vous me racontiez la scène et comment elle a été faite, peut-être la plus apothéotique de la guerre au bord de la plage, qui est dans Apocalypse Now, le film de Coppola, qui est de 79.
Oui, avec Robert Duvall qui atterrit en hélicoptère sur une plage où il y a une vague, parce que c'est un général complètement fou qui veut surfer sur cette fameuse lame, et ça défouraille de tous les côtés. Il dit, le napalm pour lui, ça, it smells of victory, et ça sent la victoire. Et c'est une scène qui a dû être écrite, à mon avis, par un des scénaristes, le fameux John Milius, qui a écrit ensuite Conan le Barbare, entre autres, qui était un fou furieux et un fanatique de surf, et qui a réalisé un des seuls bons films de surf qui s'appelle Big Wednesday.
Quand était-ce ?
Dans les années 70.
Avec des acteurs qu'on connaît ?
Avec des acteurs qui ont disparu de la circulation, qui étaient trois jeunes types assez beaux et avec des pectoraux d'athlètes, mais qui ont disparu de la circulation. Mais le film était très, très nostalgique et très triste, au fond.
Ah oui ?
Ouais, avec, je crois même que Mickey Dora, le fameux surfeur, était conseiller technique.
Alors, il y a eu un autre film de surf, mais qui finissait mal, c'était Point Break, je crois.
Oui, de Catherine Bigelow, qui est la seule cinéaste dont on pourrait penser que c'est un homme hyper viril, avec une histoire de hold-up qui se termine très mal, et les deux surfeurs qui se séparent à la fin, parce qu'on voit arriver quasiment un tsunami, et un des acolytes s'en va. Et on sait qu'il ne reviendra pas, on voit cette vague immense submergée. Mais le film n'est pas très bon.
Hein. Il n'y a pas non plus le meilleur acteur du monde.
Il y a Keanu Reeves en plus, et il y a l'autre pas très bon acteur, Patrick Swayze, qui le pauvre est mort depuis. Mais hélas, Keanu Reeves joue dans le dernier Winding Refn.
Nous allons maintenant entendre les Beach Boys dans The Girls on the Beach. C'est une chanson de 1965, composée pour un film du même titre, avec pour acteurs les Beach Boys eux-mêmes. Quand un acteur a du succès, on le fait chanter. Quand un chanteur a du succès, on le fait jouer. Et généralement, ni l'un ni l'autre ne dure beaucoup.
Girls on the beach are all within reach.
Alors Eric Neuf, dans la deuxième partie de ce secret professionnel, on va aller vers le coucher de soleil des plages. Mais parlez-moi d'abord de cet extravagant film de The Girls on the Beach qui, je crois, faisait partie de ce qu'on a appelé, d'un sous-genre qu'on a appelé les Beach Party Films.
Ah oui, ça a été toute une brochette de navets dans les années 60, lancée par une compagnie qui s'appelait American International Pictures, qui était spécialisée. Quand on voit les bandes-annonces, on a l'impression que ce sont des parodies, tellement c'est gaguesque, toutes ces filles en bikini orange, ces types en chemise rayée, qui ont soit une planche sous le bras, soit une guitare à la main. Et c'est d'un kitsch absolu. Ça a dû être tourné à la va-vite, écrit encore plus rapidement avant. Et ça a été un sous-genre qui devait être projeté dans un drive-in, parce que c'est des films qu'on n'a pratiquement pas vus en France, ça, parce qu'il n'y avait pas le public. Mais c'était avec des musiciens qui étaient des sous-Beach Boys, avec des chanteurs un peu anecdotiques comme Frankie Avalon.
Ah oui.
Et il y avait des filles comme Dorothy Malone, très mignonne à l'époque d'ailleurs. Et c'est des films comme ceux que faisait en s'amusant Jerry Lewis plus tard, mais dans le cadre sportif et ensoleillé de Malibu et de cette côte californienne.
Et donc ils ont exploité le filon quelques années et...
Oui, ça a duré 5-7 ans, mais c'était presque des films à la Roger Corman, hein, fait de Brick et Brock, et où tout le monde se fichait un peu de tout et qui était destiné à être consommé dans la foulée et aussitôt oublié.
Alors, il y a des films de plage où on veut absolument quitter la plage, qui est montré comme un lieu hostile et où tout ce qui est sympathique ou anodin, mettons en Provence, devient dangereux dans un îlot du Pacifique. Et je pense en particulier à Seul au monde, je crois que c'est le titre du film de Zemeckis en 2000.
Oui, où Tom Hanks est rescapé d'un crash aérien, se retrouve seul sur cette île qui doit être perdue au milieu du Pacifique et qui joue les Robinson Crusoe. Et la solitude est telle que... Il s'invente un ami imaginaire avec un ballon de basket qu'il appelle Wilson, puisque c'est la marque des ballons de basket, Wilson, toujours aux États-Unis. Et un jour, il le perd et il essaye de le récupérer sur l'eau en le poursuivant avec un radeau. Mais les îles, c'est des endroits dont on a envie de partir. Peut-être que le film le plus emblématique de ça, c'est Duel dans le Pacifique.
Qu'est-ce que c'est, Duel?
C'est un film de John Boorman où la guerre est terminée. Il y a deux naufragés, un Américain et un Japonais, qui ne le savent pas et qui sont dans une île en train d'essayer de tuer l'un, essaye de tuer l'autre et vice-versa.
Ils croient que la guerre continue.
Ouais.
Vous savez que c'est arrivé ça à Mishima, quand Mishima est allé faire pour une traduction d'un de ses livres en 63 de mémoire, je vous dis ça de mémoire, au Brésil. Et il a rencontré, là-bas il le raconte, il a rencontré des Japonais qui étaient, ou plutôt on lui parle de Japonais cachés dans la forêt brésilienne, qui étaient persuadés en 63 que la guerre continuait encore et qui tenaient les armes pour l'empereur du Japon. Il y a des films plus sérieux au bord de la plage, enfin non d'ailleurs que Seul au monde ne soit pas sérieux, et je pense en particulier à de très belles scènes dans le septième saut de Ingmar
Bergman.
Ah oui,
alors on peut dire que c'est sérieux. D'abord c'est en noir et blanc, c'est du Bergman.
Et... En 57 on faisait plus de films en noir et blanc?
Ah, peut-être que... Non, c'était... Mais de toute façon, je crois que le noir et blanc convenait beaucoup mieux à cette scène-là et à ce film-là, où le chevalier est joué par Max von Sydow, qui était l'acteur fétiche de Bergman, sur une plage de galets avec un bruit de ressac très inquiétant, joue une partie d'échecs avec un personnage qu'on comprend être la mort et qui lui dit je t'accompagne depuis longtemps. Et là, il joue... sa vie sur cet échiquier au bord d'une plage sur laquelle on n'irait peut-être pas passer sa lune de miel.
Oui. Il y a une belle réplique dans ce film qui est la mort dit au chevalier « Es-tu prêt ?» et lui répond « Mon corps est prêt, mais pas moi. »
Ah oui,
c'est pas mal.
Ah non, mais Bergman, c'est pas mal.
Il y a aussi des gens qui font des films sur les plages et qui parlent des films qu'ils font sur les plages. Et je pense à Agnès Varda qui a fait en 2008 un documentaire, je ne sais pas si Eric Neuf fait une grimace, je ne suis pas très sûr qu'il apprécie beaucoup.
Si, si, j'aime beaucoup ce film, je ne suis pas fou de tous les films d'Agnès Varda, mais celui-là
film de 2008.
Est une espèce de rétrospective, d'auto-hommage, inventif, décontracté. Et c'est une cinéaste de plage, puisque son premier film, La Pointe Courte, se passait sur les plages de Sète avec un Philippe Noiret en pull ras du cou et en espadrille, assez étonnant.
C'était une fiction ?
Oui, un très joli film.
Pour finir, Eric Neuf, La mer, c'est particulièrement merveilleux pour les scènes finales. Et il y a des scènes très fameuses achevant des films. Il y en a au moins une qui est Mort à Venise, n'est-ce pas ?
Ah oui, qui est superbe d'ailleurs, avec ce jeune éphèbe qui... marche au bord de l'eau sur la plage du Lido et Dirk Bogarde le regardant et mourant lentement dans son transat avec sa teinture qui lui dégouline sur la joue comme si c'était du sang qui tombait d'une blessure, avec la musique de Mahler qui ne gâche rien. Et la scène est magnifique, très, très lente et très longue. Et c'est peut-être la meilleure partie du film qui a un petit peu vieilli.
Et il faut dire de qui est la...
De Visconti, oui. Et le problème, c'est que quand on connaît un peu l'endroit, on est triste parce que le fameux hôtel où le film se déroule a essayé d'être transformé en appartement, ce qui ne s'est pas produit. Et si on connaît un peu la plage en question, on se dit, le pauvre acteur, comme l'eau est bourrée de méduses, on a peur qu'il se fasse piquer pendant la prise.
Il y a aussi une très belle scène de fin, moins funèbre que le Visconti, c'est dans... Et on finira là-dessus, Eric Neuf, c'est dans Fellini, c'est dans la Dolce Vita, non ?
Ah, moins funèbre, c'est pas sûr, hein, parce que la fin de la Dolce Vita est quand même d'une mélancolie infinie. C'est sur une plage, encore un film en noir et blanc, après une nuit blanche, justement. Mastroianni est sur cette plage après une espèce d'orgie. Et des pêcheurs ont ramené dans leur filet un énorme poisson, une sorte de poisson lune, mort là, qui traîne sur le sable. Et de l'autre côté, il y a une jeune fille blonde, charmante, qui fait des signes à Mastroianni. Il y a un petit bras de mer qui n'arrive pas à traverser. Il ne comprend pas ce qu'elle lui dit. Et il écarte les bras en signe d'incompréhension. Il s'éloigne et on se dit que c'était peut-être la dernière parcelle d'innocence qu'il aurait pu avoir et qu'il sait qu'il ne retrouvera jamais cet état de grâce et qu'il abandonne ses illusions de jeunesse définitivement. Non, la fin est... presque plus triste que la mort de Gustav von Aschenbach.
Mais je dirais pas funèbre, la jeune fille sourit.
Ah non, pas funèbre, mais il y a une grande mélancolie, je trouve.
Oui, oui, oui.
Quelque chose comme des regrets, quelque chose de très poétique. Le cinéma de cette époque-là arrivait presque malgré lui à réussir des choses qui étaient égales à la meilleure littérature.
Enfin, Eric Neuf, pour finir, si on pense à Waterworld, le film d'anticipation de 1995 avec Kevin Costner, où les mers ont tout envahi, diriez-vous que Le Secret Professionnel des films de plage et que la mer est le symbole du début et de la fin de tout, comme elle a été à l'origine sur notre terre et comme elle finira peut-être?
Oula, bravo. On peut dire aussi que le cinéma prend l'eau.
C'était Secret Professionnel, le 223e. Toute cette année, l'émission a été réalisée, comme depuis son début en 2011, par Clotilde Pivin. Et l'attachée d'émission pour la troisième année a été Daphné Agral.
Non capisco, non si sente.
Je les remercie toutes les deux de leur professionnalisme sans secret et leur donne rendez-vous pour une nouvelle saison de l'émission le 4 septembre prochain. Réalisation donc Clotilde Pivin, attachée d'émission donc Daphné Abgral, prise de son Philippe Thibault, dans un instant Joël Gaillot, une saison au théâtre.
Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of chap girls and synthesis. And I ain't got no money. And I ain't got no hands. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high.